Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Mesdames, Messieurs, au cours des deux cours précédents, si vous vous en souvenez encore, nous avons parcouru un certain chemin dans les rayons des bibliothèques pour y chercher ce que les modernes ont écrit sur les sources et les eaux. Je vous ai décrit ces idées, ou plutôt un certain nombre de lieux communs qui grèvent les recherches sur le culte des eaux et des sources. Liés à une représentation de la nature et des origines du sentiment religieux tel qu'elle s'est développée au XIXe siècle, en étroite liaison avec le concept folklorique de la survivance et avec la phénoménologie, le raisonnement moderne sur les eaux, le culte des eaux, à quelques exceptions près, donne l'impression de tourner en rond. Nous avons surtout fréquenté les débats sur la nature religieuse des bois sacrés, qui sont en étroite liaison avec le problème des sources et des autres phénomènes naturels. Les diverses interprétations données depuis le début du XIXe siècle sur ces phénomènes s'appuient toujours sur deux textes, un extrait des lettres à Lucilius de Sénèque et un passage de Pline l'Ancien sur les forêts, sur les bois, sans parler des différentes définitions lexicales du terme « lucus ». Nous avons constaté que ces deux passages, Sénèque et Pline, étaient nettement surinterprétés. À en juger par une lecture précise de ces deux textes, et après avoir expliqué le sens antique du terme « sacré » qui joue un rôle dans ce débat, nous avons relevé que les anciens accordaient au phénomène naturel une qualité interstitielle, en quelque sorte, signalant qu'une divinité y était à l'œuvre. Les humains reconnaissaient cette qualité et dédiaient l'endroit à telle ou telle divinité, conformément aux coutumes. Nous sommes dans une situation proche de la démarche divinatoire. Le lieu est consacré à la suite d'un signal divin. Dans ces cas-ci, il ne s'agit pas d'une intervention ponctuelle et organisée rituellement, mais d'un phénomène plus ancien qui garde en quelque sorte la trace du choix de ce lieu opéré par la divinité elle-même. C'est un lieu où la volonté divine s'est manifestée, où le noumen de la divinité est inscrit en quelque sorte. Et c'est à ce point que nous pouvons revenir maintenant au culte des sources et des cours d'eau pour nous demander comment se pose le problème pour ce type de phénomène de la nature. Que disaient donc les anciens à ce propos ? Un mot tout de suite sur le texte de Sénèque que nous avons déjà vu. Après les bois sacrés et les grottes, le philosophe cite comme exemple de lieu qui paraît habité par une divinité les sources des grands fleuves, les sources des eaux chaudes et les étangs que l'opacité ou la profondeur immense a consacrés. Sacrawit est le terme qu'il emploie. J'ai déjà souligné le terme employé par Sénèque pour les étangs, pour les lacs, sacrés. Ce n'est pas en eux-mêmes qu'ils sont sacrés, mais en tant qu'ils sont particulièrement opaques et d'une profondeur immense. C'est ce caractère naturel qui les a consacrés. Ce terme et cette argumentation confirment ce que j'ai dit à propos des bois sacrés. Il s'agit, dans les classements des lieux sacrés, d'une catégorie de lieux qui sont reconnus comme étant sacrés par les humains en raison d'un phénomène naturel éminent, et en tant que tels, ils sont tout de suite sujets à des obligations rituelles. De même, les sources des grands fleuves, les cours d'eau qui sortent brutalement de la terre, ou les sources des eaux chaudes, signalent par leur particularité qu'ils sont l'œuvre et la résidence d'une divinité. Il s'agit bien entendu là de résumé ou de fiction juridique, car comme je l'ai dit, les bois sacrés ou les sources sacrées étaient consacrés ensuite à l'instar de n'importe quel temple. Néanmoins, la participation divine au choix du lieu était plus prégnante que pour la construction des temples. On pourrait considérer, comme je viens de le dire, qu'elle appartient au même registre que ce que les Romains appelaient l'inauguratio d'un espace, tel que la pratiquaient les augures, c'est-à-dire en installant un espace après avoir consulté Jupiter. C'est ça qu'on appelle une inauguratio. Dans le cas qui nous intéresse, ce ne sont pas les augures qui prennent le devant, mais la divinité. Nous retrouverons des exemples plus précis de ce genre de raisonnement, mais nous pouvons maintenant revenir au texte de Servius et à la formule que j'ai citée en ouvrant ce cours. « Nullus fons non sacer », il n'y a de source qui ne soit sacrée. Demandons-nous ce que l'eau représente pour les Romains. En quoi est-elle sacrée? Le commentaire de Servius, où cette formule est donnée, serait-il un argument en faveur du sacré diffus qu'affectionnait le XIXe siècle? Avant d'interpréter cette expression dans le sens universel de Mircea Eliade et de considérer le poète et son que le poète et son commentateur voulaient souligner par là la sacralité originelle des eaux, il convient de s'interroger sur ce que Servius entend par là et donc replacer son affirmation dans son contexte historique. La première remarque à faire s'inspirera du passage de Sénèque que nous venons de relire. Si nous pensons à l'argumentation du philosophe, nous comprenons ce que Servius veut dire. Sa formule signifie que toute source correspond à ce genre de phénomène surprenant qui nous signale qu'une divinité habite cet endroit et qu'elle demande à être honorée et respectée. Cette initiative est acceptée par les humains au même titre qu'un prodige ou un signe, et le lieu est formellement consacré. Nous sommes donc loin du sacré tel que l'imaginent Rudolf Otto ou Mircea Eliade. Mais continuons en entrant dans le vif du sujet et en commençant, à tout seigneur, tout honneur, par les fontaines de Rome. Continuons par un texte de Frontin d'abord, qui date de la fin du 1er siècle de notre ère et que l'on trouve au début de son traité sur les aqueducs de Rome. Pendant 441 ans, écrit-il, les Romains se contentèrent de se servir des eaux qu'ils puisaient du Tibre, des puits ou des sources. Le souvenir des sources existe encore aujourd'hui et est vénéré avec grand respect, continue-t-il. On croit qu'elles apportent la santé au corps malade, comme celle, comme la fontaine des Camènes, d'Apollon ou de Juturne. De nos jours, cependant, se déversent dans la ville des aqueducs, Appia, Agnovetus, etc. Il énumère les aqueducs. Les sources et le Tibre sont donc l'objet d'une grande vénération, un peu nostalgique déjà, car les eaux traditionnelles sont désormais remplacées par des aqueducs. Nous comprendrons plus loin pour quelles raisons Frontin paraît considérer l'eau des aqueducs comme inférieure, en quelque sorte, à celle des sources ou du Tibre, même si on fait l'éloge de tel ou tel aqueduc. Frontin attribue à ces vieilles sources des vertus guérisseuses, vous l'avez entendu, mais ne dit rien sur leur caractère sacré. Il nomme trois sources qui appartiennent à trois divinités. La source d'Apollon, le Fons Apollinis, n'est pas connue avec certitude. Eugenio La Rocca l'identifie à la rotonde qui se trouve à côté du temple d'Apollon Medicus, près du théâtre de Marcellus, dont vous voyez les arcades en bas de l'image. Les deux autres sources sont connues avec un peu plus de détails. Les Camènes étaient les divinités d'une source située à l'extérieur de la porte Capène, à peu près dans le secteur des thermes de Caracalla actuels, en face des thermes de Caracalla. La zone n'est pas connu, on ne connaît pas l'emplacement précis, mais en gros, on voit quelle est la zone où il faut chercher le bois sacré des Camènes et les sources qu'il contenait. Cette fontaine était célébrée pour la pureté extraordinaire de son eau. Chaque jour, les Vestales s'y rendaient pour puiser l'eau qu'elles utilisaient dans la maison des Vestales, où elles procédaient à des purifications rituelles. La fontaine Juturne, la troisième qui est nommée, était réputée également très salubre et c'était pour cela qu'elle était utilisée pour tous les sacrifices publics. C'est ce que disent les anciens. Pour bien comprendre l'exemple de la source Juturne, il faut lire de près les auteurs anciens et c'est assez intéressant. Le témoignage de l'encyclopédiste Varron, qui écrivit pendant la première moitié du 1er siècle avant notre ère, est invoqué pour prouver le pouvoir guérisseur de la source. Et ça recoupe donc ce que dit Frontin. En fait, le témoignage de Varron est fondé, comme c'est souvent le cas, sur une interprétation par étymologique. que le savant souligne d'ailleurs lui-même. Yuturna, écrit-il, était une nymphe qui prêtait secours. Quai Yuwaret, le terme Yu est important évidemment. Aussi une foule de malades, en raison même de son nom, viennent-ils habituellement puiser de l'eau à sa fontaine. Donc c'est en raison de son nom, Propter It Nomen, que les malades cherchent secours auprès de Juturne. À la fin du IVe siècle de notre ère, le grammairien Servius donne une version plus complète de cette spéculation. En Italie, Juturne est une source très saine, toujours saine, salubert, salubérimus, etc., écrit-il, située à côté du fleuve Numicus, à Lavinium, où les Troyens sont censés avoir abordé. Son nom est tiré de Iuvare Ede, Iuturna. En effet, alors que toute eau est par nature nuisible au corps des étrangers, cette source est très saine pour tous, Iuvat. Elle aide, elle est bonne pour tous. C'est de cette source qu'on avait l'habitude d'apporter de l'eau à Rome pour tous les sacrifices. Voilà pourquoi on dit cela. Pour comprendre cette glose complètement, parce que je vous parle de Rome, Frontin parle de Rome, maintenant on parle de Lavinium, il faut connaître le contexte qui est un peu condensé. L'explication de Servius est fondée, on le comprend tout de suite, sur la même interprétation étymologique du nom de la source que celle de Varron. Mais on saisit mal son rapport avec le Numicus. Or, Servius commente dans l'Énéide le passage qui précède le combat entre Énée et Turnus. Ce dernier, qui est le champion de Lavinium, en raison de son nom, est devenu dans l'épopée le frère de Iuturna. Ce dernier, en raison de son nom, donc, est devenu le frère de Iuturna. La source se jetait dans le Numicus, dans la plaine des environs de Lavinium, où s'affrontent les Latins et les Troyens. Servius ne prend pas la peine d'expliquer que cette Juturne de Lavinium, qui est l'ennemi des Troyens dans l'épopée, aidait au contraire les habitants de Lavinium. Son efficacité était telle, faut-il sous-entendre, que par la suite, les Troyens et leurs descendants ont continué à se servir de cette eau dans les sacrifices. Et par là, la source est finalement arrivée à Rome. Ou alors, Servius sous-entend que quand Lavinium fut soumise par les Romains de l'époque historique, en 338 avant notre ère, et que les cultes de l'ancienne métropole et de Rome furent mis en commun, on ait utilisé son eau dans les sacrifices romains, sans doute en référence à ce passé glorieux. Ou encore, comme dit le pseudo-Servius, on a pris l'habitude de lui offrir des sacrifices en raison de l'innocuité de son eau, qui servait à tout le monde, qui était en commun désormais. Enfin, il peut y avoir des spéculations de ce type derrière toutes ces reconstructions. Mais il faut savoir qu'il y avait aussi une source Juturne à Rome. Auprès du temple de Vesta, dans l'eau dans laquelle burent les chevaux de Castor et Pollux quand ils annoncèrent aux Romains la victoire de leur armée sur les Latins en 499 avant notre ère. On peut se demander ce n'est pas à son eau que font allusion les grammairiens, et si ces qualités n'ont pas été introduites de Rome dans la légende troyenne, c'est plutôt mon point de vue. Car bien entendu, il ne faut pas transformer l'épopée virgilienne en histoire, l'épopée virgilienne qui s'évertue de donner un fondement lointain aux institutions de la Rome historique. C'était ça l'enjeu, et non l'inverse. Mais peu importe pour notre propos. Ce que ces explications nous apprennent, c'est que la première qualité d'une eau, c'est d'être salubre, saine et pour tous. Juturne est la plus pure, car elle est bonne pour tous. Omnibus saluberimus. C'est une source politique, pour ainsi dire, une source d'État qui est utilisée dans tous les sacrifices collectifs, puisqu'elle est bonne pour tous, alors que d'autres sources ne sont pas bonnes pour tous. Une autre étymologie et une autre orthographe présente la source comme l'intarissable, la diuturna, celle qui coule interminablement, très longtemps. Et Virgile lui-même, je l'ai dit, fait une autre étymologie, la rapproche du héros Turnus, qu'il a créé sans doute d'après ce modèle. Ce genre de spéculations étymologiques sont bien connues, je le répète souvent, elles servaient aux anciens de moyens pour analyser leurs institutions, et elles sont intéressantes à cet égard, car elles peuvent révéler au détour des données nouvelles sur l'objet étudié. C'est le cas ici. Les jeux étymologiques nous apprennent en effet que l'eau de Juturne est secourable, salubre et qu'elle est intarissable. Comme une bonne source est saine et salubre, elle sert donc pour les usages collectifs, pour les personnes saines et pour celles qui ne le sont pas. Il serait exagéré de considérer que ce passage prouve qu'à Rome, les sources connues servaient essentiellement à guérir, car les qualités de Juturne sont toutes dérivées de son nom, et aussi, il faut l'ajouter, du fait qu'elle se trouvait au cœur du Forum romain, à côté du foyer public de Vesta, et que son nom était presque destiné à tous les sacrifices par sa position même. Il y a le feu des sacrifices qui provient de chez Vesta, l'eau vient de la source Juturne qui se trouve à côté. C'est une eau collective, je le répète, pour ainsi dire. Cette eau concerne par ailleurs autant la conservation de la santé que le recouvrement de celle-ci. Une belle confirmation de cette interprétation de la source qui aide est donnée par la mythologie romaine. Après avoir fait l'éloge de la valeur militaire et morale de Rome, Properce décrit les mirabilia, les merveilles de Rome. C'est chez nous que tu coules au fleuve de Tibur, Agno, c'est l'un des fleuves qui se trouve à l'est de Rome. Chez nous, le clitumne descend d'un sentier ombrien. Clitumne, c'est ce qui donnera le Tibre. Nous reviendrons au clitumne. Et l'aqueduc de Marcius, l'Aqua Marcia, cet ouvrage immortel. Les lacs d'Albe et d'Aricie, dans les monts Albins, à la commune source et l'onde salutaire que but le coursier de Pollux, potaque et polluxis, nympha salubris equo. Notre Juturne est appelée, une fois de plus, nymphe salubre, et le poète rappelle la légende du lac Régil, près de Tusculum, que j'ai déjà cité, et dont la victoire fut annoncée miraculeusement par deux cavaliers qui firent boire leurs chevaux dans la source Juturne. Les castors, Castor et Pollux, étaient les patrons de l'ordre équestre, et chaque année, d'ailleurs, l'ordre équestre faisait une grande parade qui venait du temple de Mars sur la Via Appia jusqu'au Forum, continuait après, mais devant le temple de Castor et Pollux, qui se trouve à côté, cette parade de la chevalerie romaine s'adresser à cet endroit, à Castor et Pollux. Vous avez vu que dans la source même, il y a un hôtel avec Castor et Pollux. Bon, est-ce qu'il provient vraiment de là? Si c'est le cas, on peut toujours imaginer, soit que c'est une allusion à la légende, mais qu'il y avait peut-être aussi un sacrifice à cet endroit. Mais donc, tout cela, l'archéologie interdit de le dire parce que nous n'en savons rien. En tout cas, d'après ces données, on peut supposer que pour les Romains, l'eau saine est indispensable au bon fonctionnement du corps et aide à retrouver celui-ci quand on l'a perdu. C'est l'aide qui est importante, de la façon la plus générale. C'est ce qu'on peut reconnaître dans l'histoire que raconte une patère en argent datée entre le 1er et le 4e siècle, la patère d'Otagnèse. Cette patère date sans doute, donc très largement, entre le 1er et le 4e, sans doute au milieu du 2e siècle, elle a été trouvée à Castro Urdiales, près de Santander, en Espagne du Nord-Est, sur le territoire de Flavio Briga, que Pline l'Ancien qualifie de colonie. On y découvre, vous le voyez, une nymphe dénudée, tenue habituelle des nymphes, couchée dans un bois, voilà le bois sacré de nouveau, et déversant une source dans un bassin. On reviendra à cela plus tard. Deux personnages de part et d'autre de la source, qui sont un paysan, reconnaissable à sa tenue, à sa tunique et au pédum, au bâton de berger sur lequel il s'appuie, et puis un notable, en bas à gauche, qui tourne son dos à la source, comme s'il était ailleurs, peut-être en ville, c'est ainsi qu'on l'a compris. Et ces deux personnages offrent chacun un sacrifice. Un jeune homme remplit un tonneau placé sur une charrette avec l'eau de la source. Un autre est agenouillé près du bassin et il paraît remplir le récipient qui se trouve devant lui. Donc manifestement, on montre le transport de l'eau. Enfin, on découvre à droite un personnage barbu assis auquel le jeune homme présente un gobelet. Les scènes sont entourées de la légende Salus Humeritana, qui peut être le nom de la source, Nympha Humeritana, Aquae Humeritanae, ou quelque chose dans ce genre. On a interprété cette scène comme un récit de guérison. L'eau de la source aurait guéri le barbu assis, et donc malade. Guéri, ce dernier aurait offert le sacrifice représenté à gauche et aurait offert aussi la pater. Je ne suis pas certain qu'il faille lire ces scènes comme un roman, comme autant d'éléments d'un roman de guérison. On peut tout aussi bien considérer que l'homme assis remercie la source pour la qualité de son eau ou pour toute autre raison. Si c'est le même qui sacrifie, pourquoi pas ? On peut toujours considérer avec Patrick Leroux que la source conserve la santé et prolonge la vie, qu'elle réunit d'ailleurs la ville et la campagne. La seule chose que nous voyons, c'est la source dans son bois, avec deux autels et des sacrifiants qui attestent un culte. Les autres personnages renvoient à la qualité de l'eau. On la transporte ailleurs, on la boit. Autrement dit, c'est pratiquement la même chose que ce que les textes de Servius et de Varron disent des sources romaines. On transporte ailleurs leur eau, elle est salubre et pour tous, on lui fait des sacrifices. Ce n'est pas un hasard que le service des aqueducs de Rome, pour revenir à Rome, n'est-ce pas, est la Statio Aquarum, ait été installée au Champ de Mars, l'actuel Largo Argentina, à côté du temple de Juturne, parce que Juturne a eu, dans le cours du temps, un vrai temple, le temple A du Largo Argentina, où s'est installé le service des eaux, dans les environs, on ne sait pas trop où, mais c'est dans ce secteur, et la statio semble avoir occupé des bureaux dans ce secteur. C'est le service des aqueducs à cette époque, n'est-ce pas, et des conduites d'eau. Et au début du IVe siècle, on a proposé qu'elle a déménagé au Forum romain et on a considéré qu'elle s'est installée près de la source Juturne que nous avons vue tout à l'heure. Et vous comprenez bien pourquoi, parce que c'est la patronne de l'eau salutaire de Rome. En tout cas, bon, certains en doutent, on sait qu'à l'époque impériale, au Forum, près de la source de Juturne, il y a toute une série de dédicaces des curateurs des eaux, donc des curateurs, des directeurs des aqueducs de Rome, et aussi une dédicace au génie de la Statio Aquarum, du bureau des aqueducs, qui proviennent de la source originale de Juturne du Forum. Donc, une fois de plus, Juturne apparaissait donc comme la déesse typique des eaux publiques. Dit Uturna, elle renvoie à leur pérennité. Iuvans, aidante, elle garantissait la salubrité de l'eau, la bonne eau. Que les malades s'en servent aussi est secondaire. L'eau est avant tout saine, ce n'est que dans un deuxième temps qu'elle peut aussi guérir. Pour conclure sur ce que les Romains disent de leur source, je voudrais citer les vers qu'au IVe siècle de notre ère, le poète Ozone a consacrés à Divona, la fontaine de Bordeaux, dans son recueil des villes les plus nobles, les plus célèbres. Dirais-je, la fontaine couverte de marbre de Paros et qui bouillonne avec l'impétuosité de l'Euripe, quel abîme en son onde, comme elle gonfle son courant, quels larges et rapides torrents jaillissent par les douze bouches de sa vaste margelle et que n'épuisent jamais les besoins innombrables de la population. C'est cette fontaine que tu aurais désiré rencontrer, roi des Mèdes, pour établir ton camp quand les fleuves desséchés te firent défaut. Ce sont ces eaux que tu aurais désiré porter par les villes étrangères, toi habitué à ne boire que l'eau du Coaspès. Salut, fontaine dont on ignore la source, fontaine sacrée, intarissable, cristalline, azurée, profonde, retentissante, limpide, ombragée. Salut, génie de la ville, qui nous abreuve de ton eau qui soigne. Salve urbis genius medico potabilis haustu. Fontaine appelée Divona dans la langue des Celtes est mise au rang des dieux, fons adite divis. La Ponus, un fleuve d'Italie du Nord, n'offre pas une boisson plus pure, le Nemausus de Nîmes, hein, un cristal plus transparent, et le Timaus en Vénétie, au flot marin, un débit plus abondant. On retrouve dans ce poème toutes les qualités de Juturne et de ce que les Romains disent des sources. Il donne tous les ingrédients de la gloire d'une fontaine, les phénomènes surprenants, le débit intarissable, l'origine introuvable, inconnue, la profondeur, la limpidité, le bruit, mais aussi les qualités civiques qui lui vaut le nom de génie de la ville de Bordeaux, qu'il faut prendre ici au sens de daimon, de puissance divine protectrice de Bordeaux, qui remplit les besoins d'une large population. Elle est bonne pour tous. Et même si le côté salutaire, medicus, est indiqué, clairement, l'ensemble du texte et la comparaison avec les autres sources célèbres démontrent qu'il s'agit surtout d'une bonne eau potable. Robert Etienne a traduit, dans un ouvrage sur Bordeaux, « medico potabilis haustu » littéralement, « potable d'une gorgée qui soigne », par la formule suivante, « qui abreuve de ton eau salubre ». On voit qu'il résonne en fonction de ce que les anciens disaient des sources, qui sont avant tout des gorgées salubres, n'est-ce pas, plus que des gorgées qui soignent. Mais je trouve que là, il banalise la formule, puisque medicus est sans aucun problème guérisseur. On boit d'une gorgée qui soigne. Et il ne faut pas évacuer, évidemment, ce genre d'allusion quand elles existent. La fontaine est sacrée, ou plutôt, elle a été ajoutée par les mortels aux dieux en tant que telle, en tant que sacrée. Elle a été consacrée. Vous retrouvez là le discours que j'ai tenu sur les bois sacrés. Et non, il ne s'agit pas d'une eau sacralisée, sacrée par elle-même. Elle a été consacrée en fonction de ce que les mortels constatent. L'initiative divine, son côté prodigieux, sont signalés par toutes les qualités de cette eau, et aussi par le fait qu'on ne connaît pas son origine, ça revient régulièrement. Donc, entre Varron, 1er siècle avant notre ère, et Ausone, au seuil de l'Antiquité tardive, l'éloge d'une source contient les mêmes traits. Mais arrêtons là pour le moment l'étude des qualités des sources et de leur mode d'intervention. Avec Juturne et la source de Castro Urdiales sur la Pater d'Otaniès, nous sommes entrés dans le véritable problème. Nous avons analysé les données sur des sources précises, plutôt que de nous intéresser à un concept universel et abstrait comme les eaux, les sources, etc. ou l'eau au singulier. C'est encore pire. Je voudrais, avec un exemple, ajouter à ce que je viens de dire une particularité qu'il ne convient pas d'oublier. Nous avons parlé de Juturne, des Camènes, de la fontaine de Bordeaux, de la fontaine d'Apollon, et nous parlerons souvent, vous le verrez, des nymphes et des eaux au pluriel. Aquae. Il y a aussi fons, fons une telle, etc. L'indétermination du nom de certaines sources, les eaux de tel endroit, les eaux de Trajan, parce que Trajan a créé l'aménagement, pourrait éventuellement donner l'impression qu'il existe malgré tout un élément indéterminé, un culte d'un élément indéterminé appelé nymphe ou fons ou eau. Cette impression serait trompeuse, je crois. Le nom des divinités romaines n'est jamais imprécis. Même quand on parle de « eau » au pluriel et que ça revient 20 fois, mais avec des épiclèses différentes ou de nymphes, une telle, ce sont toujours des divinités différentes. Ce n'est pas un concept universel et flou. Le nom est parfois réduit au mode d'action de la divinité. Parfois, il constitue un nom propre. Donc, vous l'avez entendu à l'instant, les anciens essayaient d'extraire quelques notions sur le mode d'action précis de la divinité, pour Juturne. Un exemple suffira pour prouver que pour les Romains, même en province, en fait, tous ces noms sont équivalents. C'est pour enlever des doutes quand vous verrez défiler des nymphes et des eaux et puis des divinités connues comme Apollon, etc. Ça ne veut pas dire qu'on a des divinités précises et puis un flou divin autour de l'eau. Ce sont des divinités très précises. Et je prends un exemple pour vous montrer que les Romains mixent tout cela. Ce sont simplement des conventions de langage. C'est un texte qui vient de Grande-Bretagne, des environs du mur d'Adrien, de Brocolitia, et elle concerne la déesse Conventina. Celle-ci, vous pouvez le voir dans ces quatre inscriptions, est vénérée sous plusieurs noms. D'abord, Dea Conventina. Donc là, c'est le nom propre d'une déesse. Elle est appelée aussi Conventina. Très bien, on sait que c'est une déesse. Puis elle est appelée au même endroit et pratiquement à la même époque, Dea Nympha Conventina. Et enfin, Nympha Conventina. Donc vous voyez qu'elle s'appelle Nympha Conventina ou Conventina, c'est la même chose que la Dea Conventina. Il est évident qu'il s'agit d'une nymphe, mais selon le contexte, elle porte seulement le nom propre, parfois précédé de Dea, ou simplement le nom de nymphe. On pourrait ajouter que certains sacrifiaient simplement à la nymphe, sans donner son nom. Mais tout cela est très précis dans l'esprit des dédicants. Tout ce que j'ai essayé de vous démontrer jusqu'à présent se résume à contester l'existence d'un concept antique de l'eau, de la nature, du phénomène naturel au singulier, et avec une majuscule au début. Pour les anciens, les phénomènes naturels ne sont pas des concepts, mais des divinités qui sont à l'œuvre dans les sources ou dans leurs environs. Des divinités précises et variées qui ne sont pas l'incarnation de la nature avec un grand N, et par là un moyen de rejoindre le stade le plus primitif de la religion. Elles ne sont pas intrinsèquement sacrées et leur mode d'intervention ne se limite pas du tout à la seule guérison. Il est temps maintenant d'élargir un peu la perspective et de commencer par dresser brièvement un inventaire des divinités liées à l'eau, on vient déjà d'entrer dans ce genre de discussion, afin d'avoir une idée de leur nature et de leur mode d'intervention. Ce qui revient à dire que nous devons nous consacrer aux sources, sans jeu de mots, c'est-à-dire aux documents, et notamment pour commencer aux sources écrites. Que disent les sources écrites de ces divinités des sources? Les sources écrites ont l'avantage d'être explicites. Elles livrent des noms, des descriptions de l'utilisation des eaux, et éventuellement, comme dans le cas de Juturne, des interprétations, des spéculations. Et toutes ces données, telles que les donnent surtout les inscriptions, ont pour nous le commun avantage qu'elles sont antiques et ne sont pas passées par le filtre des opinions modernes. Nous verrons dans un deuxième temps si les sources archéologiques correspondent à l'image que projettent les sources écrites. Et nous commencerons notre pérégrination. D'abord, pour commencer, quelles sont à Rome monde romain, les divinités des sources et de l'eau. Je parle bien sûr du monde romain latinophone. Nous n'allons pas revenir aux divinités des eaux, car nous avons conservé quelque temps déjà la démonstration qu'il n'existe pas dans le monde antique une ou des divinités des eaux, comme cela, mais seulement des divinités attachées à telle ou telle source, à tel ou tel phénomène aquatique. La divinité des eaux est un concept philosophique et phénoménologique moderne, et il n'a pas à nous intéresser ici. Dressons plutôt un bref inventaire des divinités des sources, des fleuves ou des lacs, et puis vous en verrez d'autres dans des situations précises après. Les premières divinités auxquelles on pense quand il s'agit du culte des eaux, et nous l'avons déjà largement fait, ce sont les nymphes. Comme Adelina Arnaldi le note, les nymphes patronnent la plupart du temps des sources d'eau potable ou utiles pour l'agriculture et l'élevage. Certaines d'entre elles sont également thérapeutiques, mais il est vrai que les épiclèses cultuelles Medica, Salutaris, Salutifera ne sont attestées par l'épigraphie qu'à l'extérieur de l'Italie. C'est une bizarrerie, c'est comme cela. Il arrive que des eaux thermales chaudes soient attribuées aux nymphes, comme à Vignoni entre Saina et Chiusi, en Étrurie centrale, d'après une inscription, Vous pouvez le voir, à Vignoni, l'inscription mentionne d'une part que cette source chaude est consacrée à des nymphes, il s'agit d'une source thermale chaude, et que d'autre part, c'est un hapax. Vous voyez qu'elle signale l'inscription que ce monsieur Trebonius Fortunatus a dédié une statue, cum basi et idem. Il a dressé une statue avec sa base et une chapelle ou un temple, Aides. C'est le seul exemple connu actuellement d'un temple des nymphes en Italie, en dehors de Rome. À Rome, il y en a un, mais c'est le seul qui existe. En tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est que cette inscription concerne une source chaude. Le nom même des nymphes, bien entendu, vous le savez, vient du grec et il signifie « source » et dans un sens secondaire intéressant, « jeune marié ». La définition de la souda, un lexique byzantin, précise une donnée importante. La nymphée est une jeune mariée, une jeune vierge qui vient de se marier, Neogamos Gunae. Elle n'est pas encore mère. Et c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas, nymphée, deux points, pégé, source, ou bien la nouvelle mariée. Ce qui permet de comprendre qu'il y a une relation entre les deux, que la source est comme la jeune mariée qui n'est pas encore mère. Ce petit détail devrait empêcher qu'on assimile les nymphes à des déesses mères, selon le fantasme stérile de la grande déesse, répété par un livre de 1975 de Moutman, qui réunit tous les poncifs déjà écrits et qui n'a pas fini de faire des dégâts dans nos études. Écrire dans un livre, qui est en général beaucoup plus judicieux sur le sujet, que les nymphes seraient, je cite, le plus souvent des déesses mères déshabillées à la romaine, est peut-être une belle formule, mais c'est proprement absurde, puisque les nymphes ne sont pas, sont des vierges, ou plutôt ce sont des jeunes vierges mariées, non encore matrones. Dans un rite d'expiation du Haut Empire, les nymphes sont d'ailleurs désignées sous le nom de Virgines Divae, jeune vierge divine. On ne pourra donc pas suivre non plus Camille Julian quand il écrit « Tous les éléments religieux de la vie des êtres comme de la vie du sol ont pu se manifester sous la forme de mère. Ce mot est celui d'un mode de divinité plutôt que d'une divinité elle-même. » On dirait qu'il a senti le problème. La même force divine est adorée comme Nemausus ou Matres Nemausicae. C'est un autre type de raisonnement, mais vous voyez qu'il va sans problème au fait que l'eau peut être une mère. Les nymphes ne sont pas toutes liées à des sources. On en trouve également dans les bois des montagnes. Mais ce sont celles des sources les plus nombreuses qui nous retiendront. Iliana Chirassi Colombo, qui a écrit un article très suggestif sur quelques divinités de sources, souligne deux autres aspects des nymphes. D'abord, et ça c'est très intéressant, nous y reviendrons à la fin, elles n'appartiennent pas aux grands dieux, Apollon, Hercule, Jupiter, etc. Et elles ne sont pas immortelles. D'abord, elles ne restent jeunes que jusqu'à leur disparition. Mais pendant le temps où elles existent, elles jouissent, bien entendu, de tous les privilèges divins, et notamment d'un culte. Rappelez-vous les observations faites à propos de l'arbre abattu par un criminel, n'est-ce pas, dont s'élève la voix d'une nymphe en train de mourir. C'est le texte même, le poème même nous le dit. Donc voilà l'exemple. Une nymphe naît et meurt quand sa période d'activité est terminée. Ce n'est pas la même chose qu'un dieu immortel de toujours et pour toujours. Les épiclèses des nymphes sont par ailleurs divinae, sanctae, très pures, pures, très pures, perennes, intarissables, pérennes, salutares, salutifères et tout ce que vous voulez. Et elles prennent souvent comme épiclèses un toponyme ou un nom de famille. Les nymphes de Domitius, Nymphae Domitianae, Nymphae Aquae Ogulniae, de l'eau Ogulnia, où les nymphes, c'est la source de l'aqueduc Ogulnius, etc. On aurait tendance, et je le fais volontiers, à les rapprocher d'une catégorie très particulière des dieux romains, les Sondergötter, les dieux fonctionnels, les dieux spécialisés, qui sont liés à une activité bien précise et qui disparaissent une fois cette activité accomplie, mais bénéficient pendant leur existence de tous les privilèges divins. C'est pour cette raison que les nymphes n'ont fréquemment que des autels ou des chapelles. À Rome, il existait cependant, je l'ai déjà dit, un temple des nymphes au Champ de Mars, le long de la Via delle Botteghe Oscure actuelle. Et puis, c'est le seul qui est connu. Et puis, certaines sources ont des temples, comme nous le verrons. Mais on peut toujours réfléchir à qui habite le temple. C'est un des problèmes qui est lié au sujet. La deuxième qualité des nymphes est révélée par une notice d'Isidore de Séville dans ses livres d'étymologie, qui explique leur proximité, la proximité des nymphes avec les muses, par le fait que le bruit de l'eau produit la musique, la musique. On comprend dès lors pourquoi Horace, dans son poème, à la source de Bandusi, qualifie les nymphes de locas, saxis unde loquaces lymphae disilium tuae, sur les rochers creux d'où s'échappent en bondissant tes lymphes babillardes, c'est-à-dire tes eaux barbiades. Lympha est le mot latin pour nympha, hein, vous avez déjà vu ce mot dans le texte de Varron. Et dans l'ode 22 du livre 1er, la célèbre Integer Vitae, Horace écrit que partout il aimera sa lalagae au doux rire, à la douce voix, dulce ridentem lalagen amabo, dulce loquentem. Nous comprenons pourquoi lalagae babille, grâce à l'étymologie de son nom et grâce à Ovide. Lalare, ou en grec lalein, lalo, signifie parler, bavarder, babiller. Quand il décrit la source du bois des Camènes, Ovide commence par décrire la source en mentionnant son murmure. Un ruisseau caillouteux coule avec un murmure indistinct. Un peu plus tôt, dans le recueil des Fastes, à propos du dernier jour des Parentalia, en février, le poète raconte l'histoire de Tacita Muta, de la muette qui se tait. Il s'agit là d'un petit chef-d'œuvre du genre étiologique. Ovide veut expliquer le nom de Tacita Muta et un rite de procuration de type magique. Et enfin, il combine les deux en racontant l'origine des dieux lares, qui, dans l'interprétation des érudits de son temps, étaient assimilés à ceux d'en bas, aux dieux mânes. C'est le début qui nous intéresse. La deuxième partie de l'histoire, que je laisse tomber, raconte comment Jupiter punit Tacita en l'envoyant aux enfers et comment Mercure, le dieu passeur, qui était chargé de l'y conduire, la viole en chemin, et comment les lares naissent au bord de la route, en quelque sorte. Mais le début est ce qui nous intéresse. Le début de l'Aition est une histoire de nymphes. Jupiter tomba un jour amoureux de Juturne. Celle-ci, farouche vierge, se cachait de toutes les manières, notamment parmi les naïades, ses sœurs. Jupiter demande à celle-ci d'empêcher Juturne de plonger parmi elles, de lui barrer la route au bord de la rivière. Toutes les nymphes acceptent. Or, je cite, il y avait là une nymphe nommée Lara. Vous voyez le rapport aussi avec les Lares, Larentia, c'est de ce nom, il a créé ce nom pour établir la connexion. Mais, continue-t-il, la première syllabe répétée donnait son ancien nom qu'elle devait à son défaut. La, répété, la, etc. Vous devinez la suite. Ce nom, Covid ne transcrit pas, était évidemment la, onomatopée de son bavardage, qui convient à une nymphe, comme vous l'avez vu, et que l'on retrouve dans le nom de l'alagué au doux babi. La bavarde ne peut donc tenir sa langue et prévient Juturne et même Junon, l'épouse de Jupiter. La colère et la punition du Tout-Puissant ne se fait pas attendre. Jupiter lui arrache la langue et l'envoie dans le marais infernal où elle sera désormais nymphe muette, c'est-à-dire l'exact contraire, l'inversion de la nymphe habituelle qui bavarde. Elle est une nymphe qui se tait. Le côté sonore des nymphes peut aussi expliquer, soit dit en passant, pourquoi Apollon, qualifié de sonore par Georges Dumézil, est associé aux sources. Les nymphes, appelées aussi lymphae, étaient entrées dans la religion romaine par la Grande Grèce comme une catégorie générale de divinités protégeant les sources. Elles étaient réputées ensorcelées, ceux qui voyaient leur reflet dans l'eau. Elles apparaissaient souvent en groupe et bien entendu, elles étaient associées à d'autres divinités, par exemple Apollon. Tout à fait proches des nymphes étaient à Rome les camènes, j'en ai déjà parlé, à propos du rite de purification quotidien des Vestales. Elles recevaient des sources, des sacrifices d'eau et de lait, et furent comprises comme des déesses résidant dans l'eau. Elles ont été depuis longtemps identifiées par les Romains aux muses, ainsi que l'affirment les gloses de Paul Diacre, d'une part, et comme le démontre très joliment le premier vers de l'Odyssée de Livius Andronicus, dans lequel Moussa est traduit par Camena, Andra moiene pe Moussa, virumi Camen in seca versutum. C'est exactement la traduction presque littérale. Et Moussa égale Camena, égale nympha. La plus vieille divinité, laissons les nymphes pour un instant, la plus vieille divinité romaine publique des sources était Fons, au masculin, parce que contrairement aux nymphes, il avait sa fête dans le vieux calendrier romain. Lors des Fontinalia du 13 octobre, on jetait des couronnes de fleurs dans les sources et on couronnait les pluies. On notera ici un détail. Varron écrit dans sa définition que l'eau qui sort d'un Fons est de l'eau vive, aqua viva. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une source canalisée et déjà domestiquée. Et ça vous renvoie à ce mépris pour l'eau d'un aqueduc, qui est secondaire en quelque sorte, qui n'est pas vive, première. Fons possédait un temple à Rome que nous ne connaissons pas, mais qui se trouvait sans doute devant la Porta Fontinalis. Nous avons déjà vu Juturne, comme elle, beaucoup de sources, et notamment les sources des fleuves, avaient un nom propre, comme Clitumnus, que nous avons déjà entendu, Tiberinus ou Volturnus, et ainsi de suite. Je ne dis rien de Furrina, que les contemporains de Varron ne connaissaient plus, et qui semblait patronner à Varron les canalisations, et à Georges Dumézil, les canalisations de drainage et de puits. C'est ce que Dumézil a essayé de prouver dans les fêtes d'automne et d'été. Le bois sacré de Furrina, situé sur la pente orientale du Janicule, fut affecté sous l'Empire à des cultores des dieux de Hierapolis Baalbek. Aquae, eau au pluriel, est également un terme appliqué à de nombreuses sources, comme vous le verrez. Nous connaissons par exemple les Aquae Albulae, les Aquae Aponi ou les Aquae Queretane, Cumane et Neapolitane, et vous reconnaissez les toponymes Pisane, etc., qu'il s'agisse des eaux d'un dieu ou d'un site. Dans ce cas, toutes les sources d'un endroit sont réunies dans une divinité collective, les eaux. Le clitum, vous verrez, c'est une multitude de sources, en fait, mais on parle d'une seule. Il y en a d'autres, mais le poète et les écrivains n'en parlent pas. Les aquae rassemblent tout sous un pluriel collectif. Il ne convient pas non plus d'oublier les figures typiquement romaines que sont le génie ou le noumen d'une source. Ainsi, deux inscriptions d'Afrique du Nord qui concernent les eaux thermales, à Hammam Sayada en Tunisie ou Hammoumbou Hanifia en Algérie, honorent le génie des eaux respectives, qui étaient apparemment désignées par une épiclèse topographique. Ici, c'est Genio Aquarum Traianarum, au génie des eaux de Trajan, et l'inscription d'Algérie, c'est au génie des eaux Sirenses, des eaux de cet endroit, de ce toponyme. Les déicants ont vénéré ici la capacité d'action de ces eaux conformément au culte du Genius. Soit le dédicant s'interrogeait sur le nom divin de la source, et c'est pour ça qu'il a choisi d'honorer son double divin, qu'il pouvait invoquer sous un nom pertinent, soit il a préféré s'adresser à ce double pour insister sur les capacités d'action. On note d'ailleurs que dans les deux inscriptions, les Aquae ont un genius, ce qui est assez étonnant parce que normalement, sous l'Empire, on aurait plutôt dit une Juno des eaux. Vraisemblablement, la confusion naît du genre de fons, la source, et du genre féminin des Aquae. C'est une étrangeté. Pour vous donner un exemple, encore une fois, du lieu commun de la survivance, voici un bel exemple de ce topos, de ce lieu commun. Voici ce qu'on peut lire à propos de ces eaux, c'est les eaux de Hammam Sayada, dans un manuel récent. Il y a l'exemple de la source chaude à Hammam Sayada, près de Béja, en Tunisie, où des cures miraculeuses sont attribuées à l'intervention d'une sainte, Lala Sayada. Des travaux ont révélé des bains romains et une dédicace par un affranchi impérial au génie ou esprit président à l'endroit nommé Aquae Traianae. C'est cet esprit qui est toujours invoqué sous le nom de la sainte dame musulmane Lala Sayada. Toute cette interprétation repose sur le contresens que M. Wells fait à propos de Genius, qui n'est pas l'esprit des eaux ou du lieu, le démon intemporel qui ressurgit dans un culte actuel, mais c'est simplement la divinité exprimant les capacités d'action du lieu et des eaux en question. Et une des façons d'expliquer Genius avec Aquae, ce qui fait un peu opposition, si vous voulez, comme je l'ai dit dans les termes, est que Aquae Traianae est pris comme toponyme et un lieu a un genius. C'est comme cela qu'on l'a expliqué et sur ce plan, il a tout à fait raison, mais ce n'est pas un esprit intemporel. Noumen intervient aussi, puissance divine. Le culte du Noumen prend le problème également du point de vue de la puissance. Aux Aquae Flavianae, en Algérie, et que nous verrons plus tard, un certain Abidius Bassus acquitte un vœu au Numen Numpharum et au Draco, au serpent. Une vieille tradition qui remonte à Stéphane Xell, qui enseignait à la fin du 19e siècle et au début du 20e ici, et que Marcel Leglet a reprise dans un article plus récent, rapproche ce serpent et d'autres semblables du génie domestique des pratiques de l'Afrique du Nord actuelle, pour postuler que le serpent, génie de maison au Maghreb, serait l'héritier du génie domestique romain. De même, le génie et les maîtresses de la source invoquées au début du siècle dernier par la population de Blida seraient les mêmes que les nymphes et le serpent de notre inscription, qui provient des environs de Blida. En outre, dans la foulée de Mircea Eliade, ses auteurs, enfin en tout cas M. Leglet, insistent sur la polyvalence troublante, je cite, du serpent, protecteur, guérisseur, gérant de fécondité et de fertilité. Sans doute est-il plus efficace pour comprendre une figure divine de laisser les généralisations et d'essayer de comprendre le serpent dans le contexte culturel dans lequel on l'invoque. Au livre 5 de l'Énéide, lorsque Énée sacrifie au dieu Mane de son père Anchise, un serpent surgit de la tombe et engloutit les offrandes. Le héros interrompt le sacrifice et se demande ce qui se passe. Il veut savoir si ce serpent est le génie du lieu ou un serviteur de son père. Les deux interprétations possibles, puisque les anciens représentaient effectivement le génie du lieu par un serpent, notamment dans le contexte domestique. À Pompéi, vous en avez de nombreux exemples, dans les cuisines par exemple. D'autre part, le serpent peut aussi être une petite divinité de service, comme la religion romaine en connaît tant, qui est attribuée éventuellement au dieu Mane d'Anchise, ou même à Anchise divinisé. Cet intermède dans le sacrifice d'Énée me paraît éclairer la figure du draco, du serpent de notre inscription. Soit il faut le considérer comme une divinisation supplémentaire des capacités du lieu, comme un génie du lieu désigné sous un autre nom, Draco, Soit il faut conclure qu'il s'agit de la figure divine qui exprime l'efficacité des nymphes, qui patronnent elles-mêmes la pureté et la salubrité de leur eau. Le dédicant d'Aquae Flavianae a donc clairement voulu souligner la puissance divine de ces eaux, et peut-être est-ce pour cela qu'il a invoqué également Draco, le serpent, qui n'est pas nécessairement une divinité locale, mais, je le répète, comme une autre expression de la puissance de l'eau. Une collaboration du même type est attestée en Italie du Nord sur une belle inscription de Velleia qui associe les nymphes et les Vires Augustae. Un certain Lucius Granius Priscus, qui a accompli une carrière locale, fit faire et dédia à ses déesses le fons et tout l'ouvrage. Je suppose qu'il s'agit du captage de la source. Les Vires sont des divinités rares et diffusées avant tout en Gaule cisalpine, à la plaine du Po. Elles sont d'ailleurs associées aux Lymphae sur le territoire de Milan, à Neptune, à Brescia, à Fons et Wentina, une source locale chez les Vestins. Il y en a Chirassi Colombo a pu montrer que les Vires avaient une efficacité médicale dans certains cas. Et dans les questions naturelles, Sénèque parle des Vires d'une source, d'un fleuve ou de l'océan qui représente en quelque sorte la force d'action, une sorte de noumène de ce type de cours d'eau ou de cette source. Cultuellement, les Vires s'ajoutent aux nymphes et aux autres divinités de source ou de fleuve et désignent, comme le noumène de ces eaux, la puissance guérisseuse ou active de cette eau. On a déjà parlé de Neptune, alors il faut y venir. Neptune n'est pas en premier lieu le dieu de la mer, comme on le dit instinctivement. Il patronne plutôt, semble-t-il, la vertu générale de l'eau présente dans le sol et sur le sol. Et s'il faut chercher un dieu de l'eau chez les Romains, c'est lui qu'il faut choisir. Ce serait le patron de tous les phénomènes aquatiques. Ce qui rend absurde, soit dit en passant, tous les rapprochements phénoménologiques entre déesse mère et eau, puisque c'est plutôt Neptune et l'eau qu'il faudrait rapprocher que des dames. Servius, le commentateur de Virgile, écrit à propos de Géorgique 4:29 « Neptune préside aux fleuves, aux sources et aux eaux ». Une des parèdres du dieu met en évidence, comme c'est l'usage en théologie romaine, une des caractéristiques essentielles du dieu. Elle s'appelle Salakia, ce qui ne peut guère signifier, d'après Georges Dumézil, que la tendance à être salax, bondissante, ce qui correspond parfaitement à l'eau. Aussi sont-elles dites salaques, bondissantes, par Ovide, d'après Paul Diacre. Le verbe dont dérive salax, salire, est appliqué par Horace aux nymphes qui desiliunt, qui sautent, qui bondissent, locas des rochers, vous rappelez. Enfin, Dumézil attire aussi l'attention sur le fait que les Neptunalia sont célébrées le 23 juillet, pendant la canicule, et ce jour-là, on s'abrite sous des tabernacles de frondaison à Rome. Et il note que les Neptunalia sont suivis le 25 juillet par les Furinalia, souvent deux vieilles fêtes sur l'ancien calendrier romain qui se suivent avec un jour d'interruption, ont un rapport, sont liées, peuvent avoir un rapport. Ce n'est pas automatique, mais ça peut l'être. On a l'impression que les deux aspects de l'eau, l'eau vive telle qu'elle jaillit des sources et coule dans les fleuves, et celle, ça c'est Neptune, et celle qui est canalisée, évacuée, rendue accessible, ce serait Furina, sont l'objet de ces deux fêtes qui tombent au plus fort de la canicule, ce qui est tout à fait logique. Ce sont deux très vieilles fêtes romaines et elles peuvent représenter en fait la façon romaine de penser l'eau, les deux aspects contradictoires de l'eau, ou complémentaires, comme vous voulez. Conformément à la théologie romaine, cela n'exclut pas d'autres divinités plus directement liées à tel ou tel aspect de l'eau, comme Fons, qui est l'eau en tant qu'elle jaillit, ou les nymphes, ou encore Juturne, les Camènes, etc., attachées à telle ou telle source. Neptune, quant à lui, gouvernait tout l'élément aquatique, le texte de Servius le montre. Et c'est pour cette raison qu'à un moment donné, quand les Romains ont découvert la mer corruptrice, on lui attribua également la mer. Il faut aussi souligner la célébration d'un ensemble de sacrifices lors des Volcanalia du 28 août, qui paraît daté d'Auguste. Sur les fastes des Arvales, on trouve sous cette date la mention à Vulcain, à Juturne, aux nymphes, à Ops opifera, à Quirinus. L'eau est envisagée ici au plus fort des chaleurs estivales à nouveau par rapport au danger de l'incendie des granges, représenté par Ops, porteuse d'abondance, et peut-être par Quirinus, s'il est lié, comme Dumézil le veut, à la troisième fonction, et au dieu du feu dévorant. Juturne, et les nymphes sont implorés d'accomplir leur tâche en ces jours de risque pour les récoltes. J'arrête là aujourd'hui et nous terminerons pour les divinités la prochaine fois et ensuite nous commencerons notre excursion. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.